présence, le grand entretien.
Et tout de suite, nous retrouvons Eric Dupri pour le grand entretien d'aujourd'hui.
Et un grand entretien avec Michel Brun qui est bien au rendez-vous malgré l'immense déception qui doit être la sienne depuis mercredi soir lorsque le reconfinement a été annoncé, ce qui a entraîné inévitablement l'annulation du festival Rattrape ton bac. Bonjour Michel, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous allez bien malgré tout ?
Je vous entends bien et ma foi, comment dire, un mélange en ce qui concerne le moral, on va dire, parce que bien sûr l'annulation de Rattrape ton bac est une terrible déception, et en particulier effectivement le fait de ne pas pouvoir donner la passion selon Saint-Jean à la Lograin en conclusion de ce week-end, et cette annulation là qui tombe juste quelques jours avant, c'est-à-dire voilà, nous étions, comment dirais-je, chaud bouillant. Et en même temps, bah écoutez, là, en ce moment, pendant toute cette semaine, des raisons de garder quand même espoir, puisque nous sommes en train de réaliser un disque, un CD avec l'ensemble baroque de Toulouse. Donc nous sommes en plein travail autour de ce CD et que donc nous ne pouvons pas nous laisser aller à trop de tristesse, parce que sans ça, l'investissement dans ce travail ne serait pas bon.
Voilà. Alors, je vais rappeler tout de même, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes le fondateur et le directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Passe ton bac devait avoir lieu en juin, comme d'habitude. Vous l'aviez reporté à l'automne en raison du premier confinement. L'édition 2020 était donc prévue les 6, 7 et 8 novembre, c'est-à-dire le week-end après celui qui vient. Et oui, et donc il y a ce nouveau confinement qui est annoncé une semaine avant. La conséquence immédiate, c'est bien sûr l'annulation définitive du Festival 2020. Mais il y a d'autres conséquences pour vous et votre équipe. À commencer, bien sûr, ce sont des mois de travail perdus. Il faut que les gens le sachent, ça.
Bien sûr, ben, c'est-à-dire que d'une manière générale, tous les artistes, hein, évidemment pas seulement ceux de l'ensemble baroque de Toulouse, se produisent en scène en essayant de donner l'impression que le moment où ils sont devant le public est un moment, comment dire, facile, où les choses, où on ne voit pas l'effort. Et donc, évidemment, il est hors de question de présenter au public le sentiment de donner l'impression au public que se produire devant lui est très difficile, que c'est laborieux, que parfois c'est des heures et des heures de répétition, des heures de travail en amont, etc. Puisque ce qu'on veut montrer au public, nous tous les artistes, c'est uniquement la beauté des œuvres qu'on livre devant eux, quoi, disons. Voilà. Et donc, le public a parfois le sentiment que les artistes, ce qu'ils font sur scène, au moment où ils se produisent, tombe un peu du ciel. Voilà. Ils ont du talent, éventuellement du génie pour les plus merveilleux d'entre eux, et ils arrivent sur scène, ils se produisent, et puis tout va bien. Mais non, bien entendu. Pour vous donner un exemple, le chœur qui devait chanter, donc le chœur baroque de Toulouse, qui devait chanter dans cette Passion selon Saint-Jean, a commencé à répéter en septembre 2019. Et donc, évidemment, il y a eu l'interruption due au premier confinement du printemps, mais nous avons répété de septembre à mars de manière assidue, tout une fois par semaine et quelques week-ends. Nous avons repris dès que possible, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, et donc c'est tout ce travail de presque une année se présenter devant le public. Et ça, c'est à tous les niveaux. Je cite l'exemple des choristes, mais bien entendu. Voilà, donc effectivement, c'est tout ce travail qui se trouve. Alors, on ne va pas dire gâché, parce que bien entendu, nous avons le fort, fort, fort espoir de pouvoir donner un jour cette passion selon Saint-Jean à la Lograin devant les Toulousains, mais en tout cas, qui est remis à plus tard, qu'il faudra donc reprendre en partie, parce que, bien sûr, les choses s'oublient au fur et à mesure.
Alors, il y a aussi le travail des gens de l'ombre, je vais l'appeler comme ça, mais de toute l'équipe administrative, la communication, tout ça qui, évidemment, est également perdu. Il faudra le refaire quoi qu'il arrive. Et puis, cette équipe, il faut bien la payer. Or, l'association qui soutient le festival Passe ton bac, devenu Rattrape ton bac, fonctionne essentiellement avec les ventes des billets de concert. Vous êtes très peu subventionné, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est une des particularités. Alors, on n'est pas les seuls, hein, bien entendu, là aussi, mais des ensembles, ce qu'on appelle les ensembles indépendants, c'est-à-dire les ensembles qui ne sont pas labellisés par l'État, comme par exemple l'orchestre du Capitole, hein, qui est un des plus grands orchestres français. Donc, il a un statut, on pourrait dire, d'État. Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où on l'appelle Orchestre National du Capitole, ça veut dire que l'État s'est engagé très fortement à le soutenir. Et donc, ces structures-là sont évidemment beaucoup plus confortées, beaucoup plus solides que nous, parce qu'elles sont très soutenues par les pouvoirs publics, alors que nos types d'ensembles indépendants sont des ensembles qui sont soutenus. Certes, nous avons des subventions, et en ce qui concerne l'ensemble Baron de Toulouse, nous avons des subventions, on pourrait dire, de toute la chaîne, c'est-à-dire de la ville de Toulouse, du département, de la région et de l'État, mais ce sont des subventions qui sont évidemment à des montants qui ne permettent pas d'assurer la bonne marche intégralement de nos structures. Et donc, effectivement, pour des ensembles comme le nôtre, en particulier pour l'ensemble baroque de Toulouse, qui est sur ce plan-là, qui est un peu en exemple, on pourrait dire, la vente des concerts est très importante parce que à chaque vente de concert, nous dégageons ce qu'on appelle une marge qui permet de prendre en charge le montant des salaires administratifs. Et donc, évidemment, le montant des cachets des musiciens et une partie du montant donc des charges administratives. Alors, on n'a pas à verser les cachets des musiciens quand on ne fait pas un concert, mais par contre, effectivement, l'équipe administrative, elle, ben voilà, il va falloir que nous réfléchissions une fois les dispositifs épuisés, disons, de chômage partiel, par exemple, épuisés, à comment nous allons réussir à traverser cette période. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions vraiment, on va dire, angoissantes sur l'avenir des artistes indépendants, des ensembles indépendants.
Oui, je pense que beaucoup d'associations qui soutiennent l'organisation de manifestations culturelles telles que la vôtre se posent des questions. Et même, on peut le dire, ça peut en mettre en danger certaines. Ça peut mettre en danger l'existence des associations et des manifestations qu'elles organisent.
Ah, bien sûr. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y a un certain nombre de festivals, par exemple, qui ont fermé, qui ont fait faillite. Enfin, c'est un mot qu'on utilise évidemment plus dans le domaine commercial et de l'entreprise, mais qui ont fait faillite. C'est-à-dire que, une grave question s'est posée à eux déjà au moment du premier confinement, qui est tombé, il faut bien reconnaître, à mauvaise période, parce que c'était au moment du printemps, au moment où on se projette, disons, sur les festivals du printemps et de l'été. Et donc, est-ce que on continue à maintenir un festival, par exemple l'été, tout en sachant qu'avec les règles de distanciation sociale, très tout à fait respectables évidemment, et qu'il fallait absolument respecter, est-ce que, en ayant donc une jauge à demi pleine et donc des recettes à moitié de d'habitude, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Et donc certains ont choisi de le faire, la grande majorité, évidemment le plus célèbre d'entre eux, c'est par exemple le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon a décidé de tout annuler, et alors là c'est le sol qui se dérobe sous les pieds des organisateurs et des artistes, parce que c'est un manque à gagner, évidemment. Bon, c'est d'abord et avant tout un problème sur le plan artistique, c'est-à-dire que cette ferveur qu'on peut apporter au public, ce bonheur qu'en général les artistes donnent au public, n'a pas pu se donner, mais aussi pour les structures, c'est comme si le sol se dérobait sous leurs pieds, parce qu'il faut trouver des solutions pour réussir à survivre. Et donc, comme je le disais, d'ores et déjà, certains ont fermé et d'autres vont certainement être mis en très grande difficulté par cette seconde interruption des spectacles en public.
Alors, sans doute que beaucoup d'associations vont se tourner évidemment vers les collectivités pour demander des aides. Il y a des fonds de soutien qui avaient été mis en place là, ces derniers mois. Est-ce qu'ils seront prolongés? Ça va être une des questions dans les semaines qui viennent. Si on revient à l'ensemble baroque de Toulouse et au festival Passe-ton-Bac d'abord, est-ce que vous comptez vous mettre rapidement à l'organisation du festival 2021 ou allez-vous attendre un peu pour voir l'évolution de la crise sanitaire?
Alors je pense, je vais vous faire une réponse de Normand, bien qu'on soit plutôt dans la région du sud-ouest, un peu les deux, oui et non. C'est-à-dire que ce que nous n'avions pas voulu faire exactement, c'était donc ne rien faire au niveau du festival pendant l'année 2020, après l'annulation de Passe-ton-Bac, et tout simplement reporter le festival l'année prochaine, puisque nous avions extrait une partie de ce qui était prévu en juin pour le donner là en novembre, et en particulier et donc la Passion selon Saint-Jean, qui devait conclure Passe-ton-Bac en juin et qui devait conclure donc Rattrape-ton-Bac en début novembre. Donc, nous allons, je pense, opter maintenant pour cette solution-là, c'est-à-dire reporter la totalité de la programmation à l'année prochaine, en espérant évidemment que, on va dire la quasi-totalité, sinon absolument tous, les artistes qui étaient engagés pour cette première édition seront libres, et donc on pourra, conserver la couleur, la thématique, la couleur qui était prévue. Donc c'était l'édition devait s'appeler Bach Monde, montrer comment beaucoup de musiciens qui pratiquent les musiques du monde pouvaient s'emparer de la musique de Bach pour la passer au crible de leur propre style musical, et en même temps, évidemment, montrer à quel point Bach est universel, c'est-à-dire que comme quoi sa musique peut être partagée par tout le monde, et donc nous ferons tout en sorte pour reprendre cette thématique et réengager les artistes qui étaient prévus en 2020. Donc voilà, nous allons nous remettre à la tâche, mais pas sur l'aspect évidemment le plus pratique, c'est-à-dire l'organisation, le montage de la grille, parce que vous savez que Passe-ton-Bac, c'est énorme, c'est 100 concerts dans 30 lieux toulousains, donc c'est un véritable canevas qu'il nous faut tisser dans les...
Il y a une grosse logistique, évidemment, oui. Ouais.
Voilà, et donc, non, dans les grandes lignes, nous allons l'acter, et puis ça, bah, nous verrons au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire, pour ne pas recommencer une troisième fois le même travail de fourmi, qui pourrait se trouver annulé brutalement par une mauvaise nouvelle.
En fait. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est entendre cette merveilleuse passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach en clôture du festival 2021 en juin prochain.
Voilà, c'est ça qui est maintenant prévu. Ça nous donne un bel objectif. Parce que, nous n'allons pas nous contenter de dire bon ben voilà, on la met en sommeil. Puisqu'on ne peut plus répéter, on ne peut plus voir avec les choristes, on la met en sommeil et puis on la reprendra quelques mois ou quelques semaines avant le festival. Non, il y a une des choristes, alors je dois dire que les choristes, alors je parle plus des choristes que des musiciens, parce que traditionnellement les choristes étant des choristes amateurs, ils travaillent depuis, ils montent les œuvres sur une période plus longue, ils travaillent depuis plus longtemps sur les œuvres, alors que les professionnels, évidemment, ils font ça tous les jours, et donc on travaille moins en amont, disons, les œuvres. Mais les choristes, donc, ont fait ce travail dont j'ai parlé tout à l'heure, sur plusieurs mois, et il y a une des choristes, donc, qui, comme les autres, était extrêmement investie, a essayé de tenir jusqu'au bout. Rendez-vous compte, on a fait toutes les dernières répétitions masquées. Les choristes ont accepté de chanter masqué, ce qui est extrêmement pénible, en particulier pour respirer, en respectant la distanciation, c'est-à-dire en s'entendant très mal, et comme aucun lieu, aucune salle municipale n'était accessible, parce qu'évidemment la ville avait décidé de les fermer pour éviter la contagion, nous étions donc accueillis par la librairie Ombre Blanche, en respectant des distances très impressionnantes, donc nous étions dispersés, tout le cœur, dans la librairie. Voilà, donc les choristes ont accepté ces conditions incroyables, et une des choristes m'a écrit hier en disant ben, « ce sera une excellente occasion pour poursuivre le travail d'apprentissage par cœur de l'œuvre, et peut-être que nous pourrons, sinon chanter la totalité de la Passion par cœur en juin prochain, en tout cas en chanter une partie, ce qui serait un beau challenge, voilà, et une belle manière de, comment dirais-je, surmonter la déception de cette annulation. »
Oui, et ce sera aussi l'occasion de parfaire finalement votre interprétation de cette œuvre, on l'espère évidemment pour vous, en juin prochain. On va suivre tout ça de près. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Michel Brun. Merci d'avoir été au rendez-vous.